Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'ancien vice-président américain Joe Biden réussit pour l'instant plutôt bien les débuts du Super Tuesday aux États-Unis. Grande primaire démocrate dans 14 États qui pourrait donner un sérieux avantage aux gagnants. On fera le point sur les premiers résultats.
Dans ce journal aussi, nous nous pencherons sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Pendant que les scientifiques cherchent un médicament, l'industrie du spectacle s'inquiète des annulations en cascade.
La réforme des retraites est passée à l'Assemblée nationale hier soir grâce au 49-3 que les motions de censure de l'opposition n'ont pas réussi à bloquer. Place maintenant au projet de loi ordinaire.
Une réforme qui pousse encore les avocats dans les rues. Les greffiers en profitent pour défendre leurs conditions de travail. Vous l'entendrez.
Et puis après cette édition, Frédéric Saïs se projettera en 2022. Son billet politique à 8h16. Le duel s'annonce encore serré aux États-Unis. Impossible de prédire pour le moment quel démocrate affrontera Donald Trump à la présidentielle en fin d'année. Deux hommes se disputent la place en ce moment alors que prend fin le Super Tuesday, les primaires démocrates dans 14 États en même temps. Il y a le modéré Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, qui multiplie les victoires face à Bernie Sanders, plus à gauche, qui pourrait lui s'emparer d'un gros État. Bonjour Isabelle Raymond.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à New York et vous suivez pour nous cette nuit d'élection. En début de soirée tout à l'heure, Isabelle, Joe Biden a très vite pris l'ascendant.
Oui, les États tombent les uns après les autres depuis tout à l'heure dans l'escarcelle de Joe Biden. L'ancien vice-président d'Obama a visiblement réussi son pari, capitalisé sur le succès de ce week-end en Caroline du Sud, puisqu'il remporte pour l'instant et avec certitude 8 États, plus de la moitié de ceux en jeu pour ce Super Tuesday, grâce notamment au vote afro-américain des États du Sud des États-Unis, l'Alabama, le Tennessee, mais pas seulement, l'Oklahoma, l'Arkansas, le Massachusetts. C'est aussi l'état d'Elizabeth Warren, le ralliement de tout ce que le Parti démocrate compte de modérer ces derniers jours derrière son nom, a visiblement porté ses fruits et relancé sa campagne. C'est une bonne soirée, a déclaré Joe Biden tout à l'heure, ragaillardi par ses bons résultats, ajoutant, Clara, on n'appelle pas ça le Super Tuesday pour rien.
Mais toutefois, Isabelle, rien ne sert d'accumuler. Certains gros états pourraient tout faire basculer.
Oui, parce que le système électoral américain est ainsi fait que ce ne sont pas des États que remportent les concurrents, mais des délégués. Or, ce sont les États les plus peuplés qui vont envoyer le plus de délégués à l'investiture démocrate au mois de juillet. Ce sera à ce moment-là, à Milwaukee, que sera investi le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre. Or, les deux États pourvoyeurs du plus grand nombre de délégués sont la Californie et le Texas. Et là, c'est le jackpot. Plus de 40% des délégués de ce Super Tuesday. Alors, pas de résultat définitif pour l'instant, mais une tendance toutefois qui semble se confirmer, Clara. Bernie Sanders ferait la course en tête en Californie, c'est le gros lot du soir, quand Joe Biden, lui, remporterait, d'après des résultats toujours provisoires, donc le Texas. C'est pas mal comme lot de consolation. Et on semble donc se diriger vers un duel Sanders contre Biden au sein des démocrates, avec toujours donc un affrontement qui se poursuit entre le camp radical face à celui des modérés.
Et tout cela à 8 mois de la présidentielle américaine. Merci beaucoup Isabelle Raymond. Pour suivre ces résultats et pour les analyser, nous avons invité Célia Belin, spécialiste des États-Unis. Ce sera dans le journal de midi et demi aujourd'hui. Mais ce matin sur France Culture, nous nous penchons aussi sur la crise migratoire provoquée par la situation en Syrie et en Turquie. Une réunion d'urgence se tiendra aujourd'hui à Bruxelles avec les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne. Depuis plusieurs jours maintenant, des milliers de réfugiés se sont massés à la frontière turco-grecque dans l'espoir de passer. Ils sont repoussés par la police à coups de gaz lacrymogène et d'incessantes patrouilles. Une police grecque soutenue par la population locale, comme l'a constaté notre envoyée spéciale Angélique Kourounis.
Tous les jours à Castagnès, il y a un peu plus de militaires, un peu plus de barbelés côté grec et un peu plus de gens qui campent en face, même si la pression s'est déplacée vers le sud de la frontière. Le gouvernement grec assure repousser tous les jours entre 4 et 5 000 migrants qui veulent passer en Europe. Ceux qui sont pris n'ont pas le droit de déposer une demande d'asile, comme le souligne le ministre grec de la Défense.
Les gens qui sont arrivés dans le pays depuis la suspension de l'octroi du droit d'asile ne vont pas dans les camps d'identification. Ils sont arrêtés et transférés directement dans des centres de détention fermés.
Les habitants de la région, eux, n'ont qu'une peur, c'est que l'armée s'en aille, alors ils la bichonnent. Madame Tassi, à une toute petite dame, vient tous les jours amener des tartes pour les soldats.
On collecte tout ce que les gens amènent. Il y a surtout de l'eau, mais aussi des jus, des croissants, des gâteaux. Chacun amène ce qu'il peut.
Les femmes de la région organisent des collectes quotidiennes, non pas en faveur des migrants, mais bien de l'armée et de la police. Couvertures, chaussettes de laine, jus de fruits, rien n'est trop beau pour ceux qui ici sont considérés comme des sauveurs.
Et d'ailleurs, les 27 pays membres de l'Union européenne sont aujourd'hui d'accord sur un point, maintenir l'ordre aux frontières extérieures. Analyse à suivre avec nos invités après ce journal. Avant cela, à 8h06 sur France Culture, poursuivons cette édition avec le nouveau coronavirus qui a fait un quatrième mort en France hier. Un homme de 92 ans dans le Morbihan. 212 cas au total sont confirmés par les autorités. Mulhouse en Alsace pourrait être un nouveau foyer de contamination. Et cette contamination va durer des semaines, voire des mois, prévient le chef de l'État Emmanuel Macron, qui annonce aussi réquisitionner tous les stocks et toute la production de masques de protection. Dans le même temps, les scientifiques recherchent toujours un antidote, un médicament qui pourrait en théorie s'inspirer de ceux déjà élaborés pour traiter d'autres coronavirus, notamment le SRAS de 2002. Ces virus sont de la même famille et c'est un point de départ, Tara Schlegel.
À l'université d'Aix-Marseille, Bruno Canard travaille depuis 2002, depuis la crise du SRAS, sur les virus émergents. Il rappelle qu'un médicament peut cibler la machinerie de réplication d'un virus pour l'empêcher d'être capable de se propager. Certaines pistes ont donné d'excellents résultats. On a ainsi réussi à guérir l'hépatite C. Il faudrait s'appuyer sur ces précédents, ajoute le directeur de recherche au CNRS.
Pour le coronavirus, cette machinerie de réplication existe. Et des médicaments à large spectre, c'est-à-dire qui sont capables d'attaquer toute la famille, sont possibles. On peut effectivement avoir ce genre de médicaments sur une étagère et dans 10 ans, s'il y a un coronavirus qui arrive, même s'il est divergent comme le MERS par rapport au SRAS, on arrivera quand même à le cibler.
À condition évidemment d'identifier précisément comment fonctionne cette grande famille des coronavirus et la façon dont ils s'attaquent aux cellules saines. Mais tout cela nécessite des moyens pour la recherche fondamentale qui manque hors épidémie. Bruno Canard.
En ce qui concerne la recherche, je suis désolé de devoir dire que depuis 2004 à 2008 à peu près, la recherche a subi alors plusieurs politiques qui ont été faites sous la présidence Sarkozy, qui ont été continuées exactement par le président Hollande et comme le président Macron, avec une vue qui n'est pas de la vue à long terme du soutien de la recherche et de l'anticipation.
À l'échelle mondiale, bien d'autres acteurs ont délaissé les coronavirus. Développer un tel médicament peut coûter des centaines de millions d'euros. Il est aussi difficile, admettent les chercheurs, de tester ces pistes cliniques hors épidémie, car on manque alors de malades pour effectuer des essais avec les tout derniers traitements.
Et actuellement, pour éviter la propagation de ce virus, les rassemblements en intérieur en France de plus de 5000 personnes sont toujours annulés au cas par cas sur demande du gouvernement. Cela a des conséquences non négligeables sur l'industrie musicale, car les tournées sont bouleversées. Écoutez à ce propos le producteur de Maître Gims, un rappeur, compositeur congolais très connu en France. La tournée est entièrement reportée au mois de juin et de juillet, Anne Lamotte.
Claude Saint-Déqui est un producteur inquiet.
Je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer.
À la tête de Cheyenne Productions, il est en charge de la tournée de Maître Gims. Et il a déjà tout payé. L'artiste, les salles, les décors, le marketing ou encore l'affichage. Tout spectacle confondu, Gims et les autres, Claude Saint-Déqui explique avoir avancé plus de 6 millions d'euros. Et si on passe au stade 3 de l'épidémie...
Si on passe au stade 3, ça devient vraiment une catastrophe pour mon métier. Pour notre industrie.
Car au stade 3, quelles salles devront fermer ? On verra à ce moment-là, répond-on au ministère de la Culture. Mais si Maître Gims annule ne serait-ce qu'un zénith, Claude Saint-Déqui, assuré pour catastrophe naturelle, ignore ce qu'il pourrait récupérer. Et il sait que des centaines d'emplois seraient impactés.
C'est des hommes qui font la sécurité, c'est des placeurs, c'est des hôtesses, c'est des contrôleurs, c'est des pompiers, c'est des infirmiers, c'est des hôtels qui nous reçoivent nos artistes le soir après le spectacle, c'est des restaurateurs, c'est tellement, tellement, tellement d'entreprises, ils vivent tellement de personnes et tellement d'hommes. Quoi.
Et ce n'est pas la billetterie, seule façon pour nous de vivre, assure-t-il, qui pourrait compenser.
Là, c'est mort. On ne vend pas un billet depuis vendredi dernier. Waouh.
Après l'attentat du Bataclan en novembre 2015, la crise des Gilets jaunes 3 ans plus tard et la grève dans les transports en décembre dernier, le coronavirus pourrait nous faire très mal, conclut le producteur, sachant que 80% des entrepreneurs du spectacle en France seraient à la tête de très petites entreprises.
C'était Anne Lamotte pour France Culture et je précise qu'aujourd'hui, mercredi, Emmanuel Macron a convoqué 2 conseils de défense, l'un consacré à la crise en Syrie, l'autre au coronavirus. Emmanuel Macron qui a évacué pendant un temps la question de sa réforme des retraites. Le projet de loi ordinaire est passé à l'Assemblée nationale avec l'aide du 49-3 hier soir. Les 2 motions de censure de l'opposition ont été bloquées par la majorité. Les débats animés n'y ont rien changé. Et ces débats reprennent de toute façon dès aujourd'hui autour du projet de loi organique de cette réforme. C'est lui qui impose l'équilibre financier du système. 1800 amendements ont été déposés, Rosalie Lafarge.
Plusieurs députés de l'opposition ont déjà prévenu, leur attitude sera la même que pour le projet de loi ordinaire.
Ça va quand même être très difficile pour eux. Hein.
Le patron des marcheurs à l'Assemblée, Gilles Legendre.
Il y a 1800 amendements, là-dessus il y en a un certain nombre qui vont tomber pour des raisons d'irrecevabilité. Il y en a un certain nombre qui sont des amendements de suppression, sur lesquels il n'est donc pas possible d'accrocher des sous-amendements. Et par conséquent, le nombre d'amendements sur lesquels on peut rallonger le temps de débat est beaucoup plus limité qu'il n'était dans le projet de loi ordinaire.
Et la Macronie s'engage à ne pas trop prendre la parole pour faire en sorte que le texte puisse être adopté d'ici dimanche. Mais l'opposition n'a évidemment pas dit son dernier mot. Pierre Dharréville est député communiste.
Pour nous, le 49-3, c'est pas le fin mot de l'histoire. Nous ne nous résolvons pas à ce que ce texte poursuive son chemin comme ça, après avoir subi un échec à chaque étape.
Pour les insoumis non plus, le 49-3 ne signe pas la fin des discussions, mais il vient les plomber, ces discussions, souligne la députée LFI Clémentine Autain.
Le débat sur la loi organique, il est de fait amputé par le climat général d'un gouvernement qui passe en force, qui ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout du débat de fond.
Et le fond, cette fois-ci, pour Olivier Faure, le chef de file des socialistes, il concerne surtout l'article 1er et sa règle d'or sur l'équilibre financier du système.
Cet article 1er, en réalité, fixe une règle qui est simple. La variable d'ajustement budgétaire du système, ce sera vous et moi. On aura désormais une variable qui s'appellera le salarié, le retraité. Ce sera sa pension qui baissera ou son âge d'équilibre qui augmentera.
Malgré les oppositions dans la rue et au Palais Bourbon, la majorité assure rester sereine et le gouvernement vise toujours l'adoption définitive de la réforme avant l'été.
Pas sûr en revanche que les contestations vont s'estomper d'ici là. Les avocats notamment sont toujours mobilisés. Et dans les tribunaux un peu partout en France, les greffiers espèrent également profiter de ce mouvement pour améliorer, eux, leurs conditions de travail. Margot Delpierre les a rencontrés.
Cela fait seulement 1 an que Xavier, affecté au service de l'instruction, travaille à Bobigny.
Physiquement, ça va. Moralement, c'est de plus en plus dur.
Comme ses collègues, il ne compte plus ses heures. Certains en font 50 ou plus par semaine, des heures supplémentaires pas toujours payées.
Pour la simple et bonne raison qu'en fait, derrière tout ce travail, on a des responsabilités, surtout vis-à-vis des détenus. C'est-à-dire que si on ne fait pas notre travail en temps et en heure, on a des délais à respecter. Tout simplement, les détenus sortent et ne sont pas jugés à temps. Si on a un minimum de sens de service public et de sens professionnel, on ne peut pas y échapper.
De grandes responsabilités pour un salaire de base d'environ 1500 euros net. Pour Cyril Papon, lui aussi greffier à Bobigny et secrétaire général adjoint de la CGT Chancellerie et Services Judiciaires, la situation ne fait qu'empirer depuis 5 ans. Ceux qui sont venus à Bobigny par conviction commencent à craquer.
De plus en plus de collègues me disent, mais Cyril, faut que tu m'obtiennes soit la mutation, soit le détachement, parce que je n'en peux plus. J'adore mon métier, mais je ne peux plus continuer à vivre. Et quand on a des discours comme ça, c'est que la personne est à bout et que là, ça devient critique pour sa santé. On est au bord du basculement vers la dépression.
Le gouvernement a annoncé la création de 35 postes de greffiers. C'est un minimum, estime la CGT.
Quand ils mettent quelques greffiers en plus que ce qui est prévu, ils disent, mais dans ce cas-là, il faut des audiences en plus. Donc on ne vient pas renforcer en équipe, on continue à l'affaiblir.
Les greffiers réclament aussi plus de temps pour former les nouveaux, plus de matériel, des armoires pour les dossiers qui s'accumulent sur le sol, des bureaux et même des stylos.
Et pour le faire savoir, ils seront donc ce midi en Seine-Saint-Denis devant le tribunal de Bobigny. C'est la première fois qu'un film intimiste est tourné sur le général de Gaulle. Il sort en salle aujourd'hui, mercredi. Il est réalisé par Gabriel Lebaumin et il met en scène Charles de Gaulle, son épouse et ses 3 enfants, précisément entre le 10 mai et le 22 juin 1940. Un récit méconnu, souligne l'ancien ministre Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle.
Ce film raconte comment Yvonne de Gaulle est partie d'abord dans le Loiret, ensuite en Bretagne. Quand elle est en Bretagne, elle n'a aucune nouvelle de son mari. Il ne sait pas où elle est et lui ne sait pas où est non plus sa famille. Si bien que quand il prononce l'appel du 18 juin, il ne sait pas si sa famille est morte ou vivante. Il a seulement pu reconstituer que la veille, trois bateaux étaient partis de Brest. Sur les trois bateaux, deux ont été coulés par les Allemands. Il ne sait pas dans lequel sa famille était. Donc c'est une histoire absolument poignante et d'ailleurs qu'on connaît depuis peu de temps.
Des propos recueillis par Pierre Neveu. Le ciel est couvert et pluvieux sur la façade atlantique jusqu'aux Pyrénées ce matin. Nuageux ailleurs. Comptez 5 degrés à Strasbourg et à Lille, 6 à Paris et Lyon, 8 degrés à Bordeaux, 13 degrés à Nice.